chers frères, la semaine dernière, je vous parlais donc de problèmes que posent les positions tenues par la fraternité Saint-Pilice. Et je vais aujourd'hui brièvement vous montrer un cas concret d'attitude qui est contre l'attitude de foi, contre l'attitude d'église. Malheureusement, c'est une attitude qui n'est que trop fréquente parmi les fidèles traditionalistes. Donc, cette attitude, eh bien, c'est de ne faire pratiquement aucun cas des lois de l'Église. Des lois générales de l'Église et des lois liturgiques et des rites sacramentels de l'Église en particulier. Alors ces lois liturgiques et les rites sacramentels qui viennent de l'Église ne peuvent pas être mauvais, contrairement à ce qui est tenu et qui est la position officielle de la fraternité Saint-Pilice. Je dis bien la position officielle parce que, évidemment, il est possible que tel ou tel prêtre n'ait pas cette position officielle. Mais donc, en restant dans cette fraternité, eh bien, c'est finalement accepter d'une manière ou d'une autre cette position officielle. Alors voilà ce que dit le Concile de Trente. Ce n'est pas moi, donc, c'est le Concile de Trente qui dit ceci. Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique en usage dans l'administration solennelle des sacrements peuvent être méprisés ou omis sans péché au gré des ministres, qu'ils soient anathème, bon, c'est une condamnation infaillible du Concile de Trente, qui est un peu plus clair. Donc les rites reçus et approuvés de l'Église catholique ne peuvent pas être méprisés ou omis sans péché. On en tirera les conséquences. Le pape Pie VI, dans sa condamnation du synode de Pistoia, qui était un synode janséniste, condamnation très intéressante, très importante, parce que elle condamne plusieurs siècles à l'avance toutes les erreurs modernistes et celles de Vatican II, et bien sûr celles de tous les descendants des jansénistes et des gallicans. Alors, une proposition donc qui disait plus ou moins ceci. Donc, comme si l'Église qui est régie, donc l'Église qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait constituer une discipline non seulement inutile et trop lourde à porter pour la liberté chrétienne, mais une discipline qui serait encore dangereuse, nuisible et conduisant à la superstition et au matérialisme. Donc cette proposition est condamnée comme fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensante aux oreilles pies, injurieuse à l'Église et à l'Esprit de Dieu qui la conduit, et pour le moins erroné. Grégoire XVI, dans l'encyclique Quo Graviora, pose cette question. Est-ce que l'Église, qui est la colonne et le soutien de la vérité, et qui manifestement reçoit sans cesse du Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes, et au mépris et au dommage d'un sacrement institué par le Christ? Donc évidemment, comme on dirait en latin, quod absit, cela n'est pas possible. Léon XIII, quant à lui, dans Testem Benevolentiae, répète tout simplement la condamnation de Pie VI. Il dit ceci, « Toutefois, ce n'est pas au gré des particuliers, facilement trompés par les apparences du bien, que la question se doit résoudre, mais c'est à l'Église qu'il appartient de porter un jugement et tous doivent y acquiescer sous peine d'encourir la censure, donc portée par notre prédécesseur Pie VI. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas à nous de juger quelle liturgie il convient de prendre pour l'Église. Les conclusions sont les suivantes. Si Paul VI est vraiment pape, en 1969, comme le soutien à la fraternité Saint-Pilice, et pas seulement à l'Église. S'il est vraiment pape à ce moment-là, ça veut dire que le nouveau missel ne peut pas être mauvais. Si vous dites qu'il est mauvais, ça, j'en tirerai les conséquences. Mais si Paul VI est pape, le nouveau missel ne peut pas être mauvais. Et plus, selon les textes du magistère que nous venons de lire, les prêtres et les fidèles n'ont pas à juger s'il faut adopter ou non ce missel. Ils doivent l'adopter. Si vous reconnaissez que Paul VI est pape, vous devez, en tant que prêtre, célébrer selon le nouveau missel. Si vous êtes un fidèle et que vous dites que Paul VI est pape, vous devez assister à la messe selon le nouveau missel, parce que cette messe que moi je dis, elle est abrogée par le nouveau missel. Il faut être conséquent dans notre obéissance à l'Église. On ne va pas à une messe parce que ça nous plaît, parce qu'on la juge bien, parce que l'autre on la juge moins bien, etc. Ça, ce n'est pas l'esprit d'Église. On assiste à une messe parce que c'est la messe de la Sainte Église catholique. Et je célèbre la messe d'avant la réforme de Paul VI parce que c'est la messe catholique. Et parce que je rejette celle de Paul VI parce qu'il n'est pas pape. Tout simplement. Ce n'est pas parce que me plaisent les beaux ornements. Ce n'est pas parce que me plaît l'encens, que me plaisent les calices, que me plaît un autel qui n'est pas une espèce de table informe au milieu des gens. Non, mes bien chers frères, c'est parce que c'est la liturgie de l'Église catholique. Et tous, nous devons avoir cet état d'esprit, cette mentalité. Et si vous estimez que Paul VI est pape, vous devez, en conscience, eh bien, assister à la nouvelle messe. Car la messe que moi je dis, pour un partisan de Paul VI, elle est abrogée. Elle n'existe plus. Elle n'est plus le rite de l'Église. Évidemment, sauf pour ceux qui reconnaissent Benoît XVI et compagnie. Mais là, ceux-là, ils doivent à ce moment-là demander l'autorisation. Hein, donc si vous reconnaissez Benoît XVI comme pape, vous devez demander l'autorisation de célébrer l'ancienne messe, ce que ne fait pas la fraternité Saint-Pilice. Deuxième conclusion, si le Novus Ordo Missae est mauvais, ce qui est certainement le cas, et ça a été démontré par un théologien, on ne peut plus compétent, qu'était le père Gérard des Lauriers, appuyé par deux cardinaux, on ne peut plus compétent également, le cardinal Ottaviani, qui était préfet du Saint-Office, et le cardinal Bacci. Donc, si le Novus Ordo Missae est mauvais, il ne peut provenir du Saint-Siège. Donc Paul VI n'est pas pape. Il ne peut provenir du Saint-Siège. Comme disent les théologiens, tertium non datur. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit Paul VI est pape, et vous devez célébrer la nouvelle messe ou y assister, soit il n'est pas, soit la nouvelle messe est mauvaise, et donc elle ne vient pas d'un véritable pape. Cela se tire de ces enseignements de l'Église. Je vous le rappelle, si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique en usage dans l'administration solennelle des sacrements, il s'agit bien de la messe, non ? Peuvent être méprisés ou omis sans péché au gré des ministres, qu'ils soient anathèmes. Donc vous le voyez, mes bien chers frères, on perd de plus en plus, en raison de cette crise de l'Église, l'esprit et l'attitude de la foi. Donc c'est de cette foi dont je voudrais aujourd'hui vous parler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La messe d'aujourd'hui, de cette fête de l'Épiphanie, de même que l'Office divin nous parle de cette étoile qui a guidé les rois mages et l'oraison d'aujourd'hui la compare justement à la fois ut quiam te expide coniovimus usque ad contemplandam speciem tue celsitudinis perducamur, alors que nous avons déjà reçu cette lumière de la foi, eh bien, nous soyons conduits à la contemplation de la beauté céleste qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, également, il est dit dans l'Office, dans une antienne, Stella Ista, cette étoile brille comme une flamme et nous montre le roi des rois. Eh bien, l'étoile qui brille comme une flamme, c'est l'étoile de la foi, cette foi qui nous montre le roi des rois. La foi, mes bien chers frères, est donc surnaturelle. C'est le premier point et qu'il est important de répéter. Comme l'étoile des mages est miraculeuse, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène surnaturel. D'ailleurs, l'étoile disparaît, elle vient réapparaître quand il est besoin, au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve avec sa mère. Il s'agit donc d'une étoile surnaturelle. Eh bien, la foi est surnaturelle, elle ne s'acquiert pas. Elle ne s'acquiert pas par les propres forces de la nature humaine. On ne peut pas acquérir la foi par notre connaissance. On ne peut pas l'acquérir parce que c'est tout simplement une vertu surnaturelle, et une vertu surnaturelle ne peut venir que de Dieu et directement de Dieu. On peut éventuellement, par notre connaissance, par notre intelligence, se préparer à recevoir cette grâce de la foi. On peut aussi préparer les âmes à recevoir cette grâce de la foi. Mais la foi reste un don de Dieu et un don surnaturel. Il est important de nous le rappeler parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque qui est proprement rationaliste, c'est-à-dire qui ne s'appuie que sur la raison humaine et encore la raison humaine avec ses faiblesses, avec cette blessure du péché originel qu'est l'ignorance, et donc avec tous les risques d'erreurs possibles. Il est donc important pour nous, mes bien chers frères, d'avoir cette attitude de foi et de répéter que la foi est une vertu surnaturelle, que la foi est un don de Dieu, que nous ne croyons pas parce que nous comprenons ce qui est révélé par Dieu, mais nous croyons parce que c'est révélé par Dieu. Et donc, il faut dénoncer cette attitude, par exemple, des fondamentalistes protestants, cette attitude rationaliste, qui consiste à essayer de démontrer par la raison ce qui se trouve dans la Sainte Écriture. Exemple concret, moi, je ne crois pas qu'il y a eu un déluge et que Noé en est ressorti avec sa famille et les animaux. Je n'y crois pas parce que j'ai des documents historiques, des sources archéologiques. J'y crois parce que c'est révélé par Dieu. Si j'y crois parce qu'il y a des sources archéologiques, historiques, etc., eh bien je suis rationaliste, je ne suis plus un homme de foi. Je peux venir appuyer cette foi par des témoignages extérieurs, oui, et dans ce cas, on peut le faire. Mais ce n'est pas à cause de ce témoignage extérieur que je crois, c'est à cause du témoignage de Dieu. Parce que le témoignage de Dieu, comme le dit l'Écriture, est plus que le témoignage des hommes. C'est un exemple parmi d'autres, mais malheureusement, il y a des personnes, des chrétiens, des catholiques même, qui font une mauvaise apologétique. Une mauvaise apologétique parce que elle n'est pas fondée sur la distinction réelle entre la foi et la raison, entre la connaissance surnaturelle qui nous vient de Dieu et une connaissance naturelle. On mélange tout. On va essayer, c'est un autre exemple que je donne, de démontrer la création de Dieu. De même que les antichrétiens vont essayer de démontrer la non-création de Dieu. Mais les uns et les autres sont dans l'erreur. La création de Dieu est un fait proprement surnaturel. La création par Dieu du monde, à partir de rien, dans le temps, est un fait surnaturel. Il n'est connaissable que par la foi. Et donc, il est indémontrable par la raison. On ne peut pas démontrer par notre petite intelligence que Dieu a créé le monde à partir de rien. Ce n'est pas possible. De même, il n'est pas possible de démontrer, comme le prétendent faire certains scientifiques prétendus, tels au moins, de démontrer que Dieu n'a pas créé le monde. Cela n'est pas possible non plus. Vous voyez, il y a un problème majeur dans cette attitude. C'est nous ramener à un niveau de connaissance purement naturel. C'est en quelque sorte faire tomber l'étoile du ciel et la mettre dans les choses terrestres. Non, ce qui nous guide, c'est une étoile. Cette étoile, elle ne fait pas partie de notre monde. Elle fait partie du surnaturel. Elle n'est pas comme une étoile normale. Et donc la foi ne fait pas partie de notre monde naturel. La foi chrétienne, la foi divine, c'est un don de Dieu, c'est un don surnaturel. Il nous faut donc faire attention à avoir une vision juste. Et une vision juste, c'est une vision qui met la foi à sa place, c'est-à-dire au-dessus de la raison naturelle, au-dessus de l'intelligence naturelle. En effet, la personne, l'homme, l'enfant qui a la foi, il les connaît plus que l'homme qui n'a pas la foi. Il connaît plus, par exemple, il connaît la création de Dieu, tout simplement. Celui qui n'a pas la foi ne sait pas, ne peut pas savoir que le monde a été créé à partir de rien par le bon Dieu. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas savoir que Dieu est un seul Dieu en trois personnes. Il ne peut pas savoir que le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s'est incarné, s'est fait homme. Eh bien, tout cela, ce sont des choses que nous savons par la foi et qui nous rendent beaucoup plus intelligents dans ce sens que nous connaissons des choses plus importantes pour notre vie que tous ces scientifiques qui passent leur temps à étudier la moindre goutte d'eau de l'atmosphère martienne ou jupitérienne. Mais bien, chers frères, le deuxième point par rapport à cette foi et par rapport à l'attitude des mages, c'est que la foi implique le renoncement à son jugement propre. Comme les rois mages doivent quitter leur pays, ils doivent laisser sur place tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, etc. Ils en emmènent avec eux pour l'offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Mais ils renoncent à tout pour suivre l'étoile. On a dû les prendre un peu pour des fous dans leur pays, ces rois mages. Et donc, il en est de même pour nous autres. La foi implique un renoncement à notre jugement propre pour suivre le jugement de Dieu. C'est l'exemple que je vous donnais par rapport à la Sainte Liturgie. Suivre le jugement de Dieu qui s'exprime par le jugement de l'Église. Donc ce n'est pas nous-mêmes que nous suivons, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu à travers l'Église. Voilà pourquoi, d'ailleurs, quand l'étoile disparaît, les rois mages vont à Jérusalem. Cette Jérusalem qui n'attendait pas vraiment le Messie, qui n'attendait pas vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'avait pas scruté finalement ces signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au sens spirituel, cette Jérusalem, non pas cette Jérusalem qui ne s'occupait pas de la venue du Messie, la Jérusalem, celle qui vient d'en haut, comme nous le dit la Sainte Écriture, eh bien cette Jérusalem, c'est l'Église. Et quand on n'a plus l'étoile de la foi, quand cette étoile, pardon, eh bien, est, est plus obscure, etc. Qu'est-ce qui nous guide ? C'est l'Église qui nous guide. C'est l'Église avec son magistère, avec le pape, avec les évêques, tout simplement. Et si aujourd'hui, en acte, cette Jérusalem de l'Église est occupée par ces pharisiens, par ces Hérodes qui discutent, mais qui, mes bien chers frères, ne cherchent pas vraiment le bon Dieu, alors où allons-nous ? On va la chercher dans la Jérusalem céleste, l'Église de tous les temps, c'est-à-dire ce qu'a toujours enseigné l'Église. Nous avons, et grâce à Dieu, cette crise n'arrive pas au 4e, au 3e siècle après notre Seigneur Jésus-Christ. Elle arrive après 2000 ans pratiquement d'Église. Et justement, toutes les questions pratiquement les plus importantes de notre foi ont été abordées, ont été traitées par la Sainte Église catholique. Elles ont été traitées, elles ont été répétées, elles ont été définies, même à de nombreuses reprises, parce qu'il y a des vérités qui sont définies plusieurs fois. Plusieurs fois, pardon, par la Sainte Église catholique. Et donc, si nous avons la foi, si nous croyons ce qu'a toujours cru l'Église, nous ne pouvons pas croire, justement, qu'émane de l'Église ce Vatican II. Nous ne pouvons pas croire qu'émane de l'Église cette nouvelle liturgie, et encore, ce n'est que trop de l'appeler liturgie. Mes bien chers frères, c'est ça la réalité de la foi. Alors oui, nous marchons dans les ténèbres, nous marchons dans un monde de ténèbres, mais nous savons où est la lumière, nous savons où chercher la lumière, nous savons où trouver les réponses par rapport, pour nous guider, pardon, vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers Bethléem, tout simplement. Nous savons, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de l'Église. Ce n'est pas dans n'importe quelle parole, ce n'est pas dans n'importe quelle prophétie ou soi-disant prophétie. Et je le répète, notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde, attention, dans les derniers temps. Il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Eh bien, face à cela, face à la multiplication de soi-disant révélations, plus ou moins farfelues les unes que les autres, nous ne devons pas en tenir compte, car cela est dangereux. Nous devons nous en tenir à ce qui a été défini par l'Église, à ce qui a été jugé par l'Église. Et donc, s'il y a des nouvelles choses qui viennent aujourd'hui, des soi-disant nouvelles révélations, nous devons a priori ne pas les suivre, ne pas les écouter. A priori, parce que l'Église ne les a pas encore jugées. Et que faibles hommes que nous sommes, nous pouvons nous tromper, comme le rappelle le pape Léon XIII, comme le rappelle donc le magistère de l'Église. Nous pouvons nous tromper, nous, pauvres hommes, si nous suivons notre propre jugement. Mais si nous suivons le jugement de l'Église, nous ne pouvons pas nous tromper. Et le jugement de l'Église implique que Vatican II ne vient pas de l'Église, que la nouvelle liturgie ne vient pas de l'Église, donc que Paul VI n'est pas véritablement pape, que Jean-Paul II n'est pas véritablement pape, que Benoît XVI, François, etc. ne sont pas véritablement successeur de Pierre. C'est la conclusion nécessaire qui découle de la foi dans l'Église catholique, mes bien chers frères. Et il nous faut donc renoncer à notre jugement pour suivre cette conclusion. Peu importe les conséquences pratiques qui sont difficiles, qui sont la marginalité, qui sont qu'on se moque de nous peut-être, etc. Ce n'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est comme les rois mages, de faire la volonté de Dieu, de suivre l'étoile. Après, advienne que pourra. Nous, nous faisons ce que nous avons à faire. Nous croyons dans les vérités toujours enseignées par la Sainte Église et nous essayons de vivre selon ces vérités. Deuxième point, les rois mages sont conduits à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est extrêmement important. Cela est extrêmement important parce que la foi, c'est avant tout croire notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avant tout croire en notre Seigneur Jésus-Christ. L'étoile les conduit à notre Seigneur. Et elle les conduit à notre Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, vrai Seigneur de toutes choses, ce qui est représenté dans les présents que les mages viennent apporter à notre Seigneur Jésus-Christ. L'or, l'encens, la myrrhe, l'encens parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu, la myrrhe parce qu'il est vrai homme et donc qu'il pourra mourir pour nous, pour tous les hommes. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Seigneur et le maître de toutes choses. Voilà pourquoi les mages lui offrent cet or qu'on offre justement au roi, au Seigneur. Donc vous le voyez, mes bien chers frères, la foi, c'est d'abord croire que Jésus est vrai Dieu, est vrai homme. C'est pas n'importe quoi la foi. Ce n'est pas comme le prétendent les modernistes, bien condamnés par le pape Saint Pie X. Ce n'est pas une expérience de Dieu, une expérience de la divinité, une expérience du surnaturel. Non, mes bien chers frères, la foi, c'est croire en Jésus. C'est croire que Jésus est Dieu. C'est croire que Jésus est notre Rédempteur, c'est croire que Jésus est notre Seigneur, tout simplement. Et donc, vous le voyez comment est déjà condamné à l'avance, et même dans cet évangile, Vatican II qui prétend que les Juifs suivent encore vraiment le vrai Dieu, eux qui attendent le Messie, mais ce Messie, il est déjà venu. Cet évangile condamne à l'avance toutes les paroles qui tendraient à dire finalement que nous sommes tous en recherche de la divinité, du vrai Dieu, que finalement nous faisons tous partie de l'Église. Cette fausse doctrine qui invite à une espèce de nouvelle évangélisation, cette évangélisation qui consiste, comme le répète à l'envi Bergoglio, à aller aux périphéries de l'existence. Il répète ce mot dans tous ses discours. La périphérie de l'existence, c'est aller faire du bien, entre guillemets, aux gens les plus défavorisés, etc. Mais il dit explicitement, sans distinction de religion, etc., et pratiquement sans annoncer le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, en fait, qu'il ne faut pas dire aux âmes, voilà où est le salut. Le salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ uniquement. Vous voyez, c'est une anti-évangélisation. C'est, ô vous, juifs, restez juifs, vous attendez le Messie, c'est bien. Ô vous, musulmans, restez musulmans avec votre soi-disant prophète, c'est moi qui rajoute soi-disant, avec votre prophète, et si vous êtes sincères dans votre ramadan, dans vos prières, sur vos tapis, pieds nus, etc., eh bien, vous serez sauvés. Il suffit d'être sincère. Mais l'étoile nous dit le contraire. Il faut pas être sincère. Il faut suivre l'étoile. Il faut suivre la foi. Et la foi nous invite à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme vrai Dieu et comme vrai homme. Et donc, si les gens aujourd'hui, les soi-disant hommes d'église, agissent aujourd'hui, eh bien, au lieu de suivre la voie, de conduire les âmes à Dieu, ce qui est normalement leur but, le but d'une véritable autorité de l'Église, le but d'un véritable pape, le but d'un véritable évêque, c'est de conduire les âmes au vrai Dieu, de conduire les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Est-ce qu'ils le font? Non. Et ils font même le contraire. Ils disent aux gens, restez dans votre fausse religion. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, par l'étoile, dit au roi mage, au peuple païen, sortez de votre pays, sortez de votre fausse religion pour aller vers moi, pour aller à la vraie religion. Et grâce à Dieu, grâce à la Sainte Église, grâce au vrai pape, grâce aux vrais évêques, peuple païen que nous étions, nous avons été conduits à la vraie religion, à la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, à la croyance dans le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien chers frères, aujourd'hui, avec cette fausse religion moderniste initiée par Jean 23, continuée allègrement par Paul VI qui a tout détruit en favorisant, en approuvant Vatican II, en détruisant la prière de l'Église, les sacrements de l'Église, cette nouvelle religion n'est pas la religion catholique et nous ne pouvons donc pas suivre ces gens. Il ne faut pas, évidemment, les suivre, car ils ne suivent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous le voyez, mes bien chers frères, ce mystère de la venue des rois mages nous enseigne beaucoup, sur notre foi et sur l'attitude, donc, que nous devons avoir. Je conclurai d'une manière pratique, eh bien, faisons comme les rois mages, ayons cette foi humble, cette foi pure, qui ne regarde pas les conséquences. Les conséquences pratiques, mes bien chers frères, peu importe, Dieu y pourvoira, comme le disaient les saints. Ce qui nous importe, nous, c'est de croire droitement et de tirer les conséquences dans notre propre vie. Comme je l'ai dit, si vous dites que Paul VI est pape, soyez conséquents, allez à la nouvelle messe et n'allez plus à la véritable messe de l'Église catholique. Si vous pensez que la nouvelle messe est mauvaise, alors elle ne peut pas venir de l'Église catholique. C'est un exemple, mais combien de personnes sont conséquentes avec cela? Mes bien chers frères, il nous faut également tirer parti de cet exemple des mages, c'est-à-dire que cette foi doit être vivante, elle doit être concrète, elle doit s'exprimer par des actions. Nous devons apporter quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce quelque chose, ce n'est pas de l'or, de l'encens, de la myrrhe, pardon. Ce sont nos actions, nos bonnes actions, nos actions faites selon les commandements de Dieu, selon les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous obtiendrons le but, ce but dont parle la prière de l'Église, cette magnifique prière d'aujourd'hui. Ne perdons jamais de vue ce but, surtout dans les moments difficiles, dans les moments de ténèbres dans lesquels nous vivons. Nous savons qu'au-dessus du voile de ce monde, il y a la vision de Dieu, il y a la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que l'obscurité de la foi, obscurité lumineuse de la foi, eh bien, nous permettra de voir le bon Dieu, de le contempler face à face. N'oublions pas ce but, car c'est ce but qui nous permet de prendre le véritable moyen. Le véritable moyen, c'est la foi catholique. Le véritable moyen, c'est l'obéissance à la Sainte Église catholique, tout simplement. Et ainsi, nous pourrons, avec les rois mages, arriver à cette contemplation de la beauté céleste dans la béatitude éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il.